Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour. À la place de l'atelier politique durant la période électorale, nous vous proposons le magazine Idée. Merci de nous accueillir. Notre invité aujourd'hui, Julien Gobin, nous propose un livre profond qui s'interroge. Son titre, L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Livre dans lequel il veut, je cite, « décrypter la métamorphose de la civilisation à l'œuvre en Occident ». Où va l'individu, cet individu si cher à Rousseau, alors que dans sa chrysalide, il se transforme et devient peu à peu un post-humain, un humain soutenu et peut-être un jour remplacé par la technique? Si l'individu se targue d'un sentiment de toute-puissance inédit à l'échelle de l'histoire, c'est uniquement parce qu'il est sous perfusion technologique, constate-t-il déjà. Sans cette technologie, que vaut-il aujourd'hui? Que vaudra-t-il demain? Autant de questions qui vont être au cœur de ce nouveau numéro du magazine Idée que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez sur l'appli RFI Pure Radio, le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Julien Gobin.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie. Et je le dis, votre livre, L'individu, fin de parcours, c'est la question que vous posez et vous y répondez dans le livre, donne à réfléchir. C'est un livre, je le disais, sur l'avenir de l'individu.
Oui, absolument. C'est un livre qui essaie de comprendre un petit peu la trajectoire dans laquelle notre civilisation est engagée, car il se passe beaucoup de choses, on le sent, il y a à la fois des revendications sociétales, des nouvelles problématiques qui sont dans le débat public, mais en même temps, nous avons une révolution technologique, l'arrivée des intelligences artificielles par exemple, la progression de la technologie en général dans notre société, ce sont deux mouvements parallèle, peut-être contradictoire. Le livre se pose la question et pour cela, plutôt que d'être dans des raccourcis, essaie de prendre de la hauteur sur tous ces débats pour comprendre en quoi ils sont engagés dans une trajectoire plus longue, plus ancienne, sur plusieurs siècles, et quel serait leur point d'aboutissement, avec au centre, bien sûr, l'individu qui est au cœur de la définition de notre civilisation occidentale.
Ce qui est au cœur, Julien Gobin, de votre livre, c'est aussi l'Occident. Mais ça, il a une valeur universelle.
Oui, c'est l'Occident dans le sens, la civilisation qui a fait naître l'idée des droits de l'homme, de la démocratie, avec cette idée d'universalisme. Et toute la question du livre, c'est de voir si on déploie les principes occidentaux des droits de l'homme, où est-ce que cela nous conduit, en quoi la technologie est un renfort de ces principes, ou en quoi peut-être elle pourrait les remettre en question.
L'Occident est sénile, écrivez-vous.
Alors, c'est évidemment une critique qu'on peut faire de l'Occident actuellement, puisqu'il y a l'idée d'un affaissement civilisationnel qu'on entend ci et là, puisqu'il y a toute une ambivalence entre à la fois l'idée d'émancipation individuelle, qui est au cœur des droits de l'homme, et en même temps, cette émancipation peut conduire à une remise en cause du cadre collectif. Comment faire société quand chacun veut être soi-même et penser que sa personnalité, ses désirs sont une norme pour la société, que la société devrait s'adapter à la singularité de chacun. Et là réside toute la tension qui se déploie dans l'histoire. On va sûrement avoir l'occasion d'y revenir.
Et comment, Julien Gobin, et vous commencez le livre avec une partie qui est très forte, qui nous rappelle comment est née la démocratie libérale avec un certain nombre de penseurs et justement cette notion d'individu, si chère par exemple à Rousseau.
Oui, absolument. L'individu est au centre du projet des Lumières. Donc là, on est au XVIIIe siècle. Et c'est cet individu qui va poser la trajectoire dans laquelle nous sommes toujours engagés. L'individu, pour le résumer simplement, c'est celui qui est l'homme qui est indivisible, à savoir celui qui pense par lui-même, qui est autonome, donc qui se pose lui-même sa propre loi, grâce à une faculté qui est l'entendement, la raison, le libre arbitre. Et tout le projet
décisif, cette notion de libre arbitre, on va y revenir.
Et c'est le nœud, c'est le nœud. On peut dire que l'individu se définit par son libre arbitre. Et tout le nœud du projet des Lumières, c'est de chercher à émanciper l'individu des grandes tutelles qui l'empêcherait d'être authentiquement lui-même. Dans le projet des Lumières, nous avons par exemple l'emprise du religieux sur l'individu, de la tradition, des préjugés. Et pour émanciper l'individu de ces carcans qui l'empêchent de s'exprimer en son propre nom, eh bien on va avoir recours à l'éducation, ce qui permettrait de développer l'esprit critique et permettre à chaque personne d'agir en son propre nom et de ne pas être à ce moment-là la marionnette des structures sociales, par exemple du poids de la religion qui dicterait les comportements, les façons de penser. Et cette émancipation est la condition même de la démocratie, puisque pour voter pour quelqu'un, il faut voter en son fort intérieur et ne pas répéter les préjugés que nous impose la structure sociale.
Sur l'éducation, il faut lire effectivement l'Émile de Rousseau, très important. Il s'agit de faire un individu original et non pas seulement un citoyen, parce que citoyen et individu, c'est pas forcément la même chose.
Et non, car le citoyen est forcément pétri des normes sociales qui viennent façonner son jugement. Et on pourrait un peu comparer ce projet de faire un individu comme un oignon. Vous voyez, vous avez l'oignon et petit à petit, on va retirer les couches qui seraient les couches des préjugés familiaux, des préjugés du milieu et qui ne sont pas le fruit d'un libre arbitre puisque c'est un conditionnement. Et petit à petit, en retirant ces couches, on devrait arriver à un noyau dur. Et ça, c'est un parti pris, évidemment, puisque toute la question est de savoir est-ce qu'on peut exister sans ces déterminismes. Mais donc, le projet des Lumières, c'est de faire jaillir ce noyau dur qui serait l'individu authentiquement lui-même. Et là, se pose toute la question que Rousseau évoque dans l'Émile. C'est peut-on être un citoyen et être un individu en même temps? Et sa réponse est bien évidemment non, on ne peut pas, puisque pour être citoyen, il faut faire un certain nombre de compromis sur sa propre nature authentique. Et donc c'est toute la tension qui se déploie ensuite sur plusieurs siècles et dans laquelle nous sommes arrivés. Peut-on faire à la fois un individu et un citoyen?
Et vous dites dans ce livre, dans cette première partie, singulièrement, Julien Gobin, que l'individu contemporain n'est anthropologiquement plus la personne morale de 1789, et ce qui remet en cause le fameux triptyque liberté, égalité, fraternité.
Et oui, absolument, puisqu'il ne faut pas oublier que les mots peuvent changer de sens dans le temps. Et en 1789, nous avons encore des personnes qui sont façonnées par un certain nombre de valeurs, de conditionnements qu'on peut appeler des valeurs pré-démocratique, c'est-à-dire que l'individu n'est pas complètement émancipé, il a encore le sentiment d'appartenir à un cadre collectif, et pour lui la liberté c'est évidemment une liberté de faire partie du corps social, une égalité dans l'égalité de participer aux institutions collectives. Or aujourd'hui, l'émancipation ayant gagné en puissance, être la liberté, l'égalité, la fraternité, l'égalité c'est celle d'être de pouvoir également être considéré selon sa nature propre, authentique, indépendamment des structures sociales. La liberté, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer librement contre les compromis qu'imposerait la vie en société. Donc ça n'est plus du tout la même chose. La première définition est collective, l'autre est individuelle. Et ça, c'est tout simplement que l'individu a évolué dans ses attentes absolument. Et désormais, les mêmes mots ne signifient plus la même chose.
Julien Gobin, vous citez évidemment Alexis de Tocqueville, qui est le grand penseur de la démocratie. Vous écrivez ceci: dans la démocratie en Amérique, celui-ci remarque que la passion de l'égalité conduit l'individu à un égoïsme destructeur de tout lien social et de toute autorité. Tocqueville qui écrivait ceci: chacun des hommes retiré à l'écart est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ça, c'est le revers de la médaille de l'individu.
Et c'est le revers de la démocratie, absolument. C'est-à-dire que l'inscription dans le collectif se dissout à partir du moment où chacun se renferme sur sa réalisation propre. Être soi-même, finalement, réaliser son moi authentique, pouvoir s'exprimer librement, mais simplement dans son champ qui est celui de sa réalisation personnelle. Et donc, ça n'est plus une inscription dans un projet à grande échelle. Et évidemment, le lien social se dissout, un renfermement sur soi qui conduit, et Tocqueville le dit, à un doux despotisme, puisque finalement, chacun abandonne progressivement l'engagement dans la cause collective. Et avec un deuxième effet, qui est un conformisme assez fort, puisque chacun s'imite les uns les autres, et ce qui conduit paradoxalement à des individus, mais qui se ressemblent tous.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, nous allons parler de l'individu maintenant, qui est au cœur de notre livre, l'individu fin de parcours, point d'interrogation, publié chez Gallimard dans la prestigieuse collection Le Débat, Julien Gobin. Après cette explication que vous nous avez proposée de la naissance de l'individu, Attardons-nous sur cet individu aujourd'hui, l'individu contemporain, qui est la deuxième grande partie de ce livre, je le répète, passionnant, avec là aussi trois mots clés que vous analysez. L'individu qui se libère de toute contrainte, qui a des difficultés à s'assumer et a des difficultés également à se lier avec l'autre.
Oui, absolument, puisque l'émancipation...
C'est ce que vous appelez les trois paradoxes de l'individu contemporain.
Oui, qui sont trois paradoxes qui sont finalement aujourd'hui le sujet qui est sur la table. Après avoir vu le passé, pourquoi, d'où venons-nous, on peut se demander où en sommes-nous. Et là, c'est un peu une analyse des symptômes d'un malaise civilisationnel qu'on pourrait sentir. Le premier des paradoxes, c'est que être individu, être soi-même, suppose de s'émanciper des structures sociales qui nous influenceraient, qui seraient des influences ou des déterminismes. Et là, l'individu est en proie à un paradoxe dans cette émancipation, puisque s'émanciper, très bien, mais est-ce pour retrouver un noyau originel qui serait ma personnalité, qui préexisterait à mon incarnation sur Terre, par exemple? Ou alors, est-ce qu'on retombe toujours dans d'autres déterminismes sans le savoir? On pense s'émanciper d'une contrainte pour tomber sur une autre. Et je prends un exemple qui est pour moi symptomatique de ces paradoxes. C'est le phénomène transgenre qui est grandissant en Occident. Puisque dedans, je relève un certain nombre de paradoxes. Évidemment, le mouvement transgenre est un mouvement global, mais qui regroupe en son sein deux écoles très différentes. Et ces deux écoles très différentes et éminemment contradictoires reflètent ces paradoxes. D'un côté, nous avons une grande nébuleuse qui affirme que tout ce qui est question d'être homme ou femme est une construction sociale. Tout ça, c'est la société qui nous l'imposerait. Et donc, s'émanciper voudrait dire, je ne correspond à aucun genre. Je ne suis ni homme ni femme, je suis non-binaire, par exemple. Et ça, c'est un mouvement que j'appelle idéaliste, puisque peu importe la biologie, le sexe biologique, on pourrait trouver une identité qui ne serait pas celle des catégories sociales. C'est la première. Deuxième école que j'appelle matérialiste et celle qui est la plus intéressante parce qu'elle concentre de nombreux paradoxes. Le premier, c'est une personne qui, quand on écoute en fait les discours de ces personnes, qui souffrent de dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est quand on a le sentiment de ne pas être né dans le bon corps, qui est un trouble qui est évidemment reconnu médicalement. Les personnes disent, dès ma plus tendre enfance, dès mes 2 ans, 3 ans, et même mes parents depuis toujours, je ne me sentais pas dans le bon corps. Par exemple, je suis un garçon, et depuis tout petit, je me sentais femme. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès la plus tendre enfance, quand le caractère n'est pas encore établi, on souhaite rejoindre un autre genre, le genre opposé. Ce qui voudrait dire que cette soi-disant construction sociale, en réalité, est quelque chose qu'on ressentirait depuis de manière immanente. Et donc c'est un paradoxe de quelque chose qui serait socialement construit, mais qu'on ressent comme inné en soi. Là, il y a un vrai paradoxe. Pourquoi est-ce que je me ressentirais de l'autre sexe si tout ça est une construction sociale, alors que je suis censé être pur, puisque ce sont mes 2-3 ans? Et le deuxième grand paradoxe, c'est une fois qu'on souhaite, on se sent appartenir à l'autre sexe, pourquoi vouloir, et ça c'est très important, pourquoi vouloir faire un traitement chirurgical et un traitement hormonal? Et là, c'est intéressant puisque ça fait intervenir au-delà des déterminismes sociaux un autre type de déterminisme qui est aujourd'hui au cœur du combat de l'individu, qui est le déterminisme biologique. Et le traitement hormonal est intéressant puisque en regardant les brochures de sensibilisation dans les mouvements, dans les associations LGBT, sur les effets du traitement hormonal, il y a marqué changement évidemment physique, etc., mais aussi changement de tempérament. 3 petits points. Quelque chose de très obscur. Est-ce qu'on peut changer de tempérament avec ça? Et j'ai écouté beaucoup de transgenres qui ont fait leur changement hormonal. Et en expliquant si ça avait eu un impact sur leur personnalité, ils disent « Non, ça n'a pas changé, mais quand même, j'ai un peu changé. Mais aussi, mes proches ont trouvé que j'avais changé. Mais finalement, j'étais toujours moi-même. » Et là, c'est toute la question. Quand on est juge et parti, on ne se rend pas compte qu'on change. C'est l'extérieur qui s'en rend compte. Et là, c'est évidemment toute la question du déterminisme biologique des hormones sur notre tempérament, sur qu'est-ce que c'est qu'un homme, une femme. Et là, il y a peut-être des différences sexuelles qui sont biologiques et pas seulement des constructions sociales.
Julien Gobin, il y a aussi aujourd'hui chez l'individu contemporain cette difficulté parfois d'être soi, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, et toute une industrie prospère autour de ce mal-être parfois. Et voilà ce que vous écrivez, vous dites « Et voilà l'individu postmoderne qui, pour muscler son moi, suit des programmes de fitness, crossfit, zumba et body pump de l'âme, méditation, pensée positive, cohérence cardiaque, yoga, véganisme, loisirs créatifs et soins énergétiques sont autant d'exercices que proposent les nouveaux gourous du développement personnel. » Le mot-clé, développement personnel.
Oui.
À l'heure de l'individu qui doit assumer.
Absolument. Et finalement, l'individu a recours à des médicaments, à des rustines pour combler quelque chose qui cloche. Et en fait, c'est intéressant puisqu'on a gagné notre liberté. Maintenant, on a parlé là précédemment de s'émanciper. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'assume maintenant qu'on est émancipé ? Et gagner sa liberté, c'est formidable, mais cela a comme corollaire la responsabilité. Puisque si nos choix ne sont plus imposés par une norme sociale, par une tradition, tous les choix reposent sur notre propre décision. Et donc, nous devons en assumer les conséquences. Dans une société où les normes, par exemple, où les normes sociales ne sont pas données, quel travail faire, avec qui se marier, mais aussi quelle religion avoir, il faut à chaque fois choisir, prendre les bonnes décisions. Et si on échoue, c'est de notre faute. Ce qui crée un poids à la fois physique sur la personne, puisqu'il faut une grande énergie pour être le maître, l'acteur de tous les pans de son existence, mais aussi un poids cognitif et existentiel. Calculer les conséquences, les risques et existentiel, puisque le sens du monde n'est plus donné.
Assumer son libre arbitre, justement.
Assumer son libre arbitre et le fait d'être acteur, d'être soi-même l'agent de son existence, donc avec la liberté que ça implique, mais aussi les conséquences. Et là, il y a évidemment un mal-être qui se matérialise dans notre société par toutes les pathologies de la société contemporaine, que sont par exemple le burn-out, la dépression, les addictions, les personnalités borderline, qui sont autant de signaux de la fatigue. Vous avez mentionné la fatigue d'être soi, de Alain Ehrenberg. Qui symbolise bien le fait, ces pathologies liées à cette liberté obtenue. Et à ce moment-là, évidemment, il faut pouvoir se renforcer, et on cherche à l'extérieur, par le développement personnel, des outils pour mieux assumer son autonomie. Et ces outils, je suis assez critique à leur égard, évidemment, même s'ils ont des aspects positifs, la méditation, toutes ces choses-là sont bien, mais ils traduisent aussi quelque chose de très paradoxal, c'est que tous ces gourous du développement personnel, comme je les appelle, ne donnent pas une solution. Ils donnent des outils, des méthodes. Alors, c'est toujours la technique de méditation, la méthode de gestion de sa vie, être toujours plus soi-même, soyez vous-même, soyez authentiquement vous-même, etc. Sans donner de réelles solutions, simplement des trajectoires. Or, quel est l'effet de ces prescriptions ? C'est de responsabiliser à nouveau l'individu. Puisque si on applique ces leçons et que ça ne fonctionne pas, on va se dire « Ah bah c'est de ma faute !» Donc il va falloir de nouveau être encore plus rigoriste, encore plus orthodoxe, faire 3 heures de yoga en plus, 3 heures de méditation. Et finalement, ça ne fait que reproduire ce qui a créé le tourment de l'individu, c'est cette responsabilité.
Julien Gobin, avant de parler de l'émergence, l'arrivée de l'intelligence artificielle et de ses effets sur l'individu souverain aujourd'hui, avec les grandeurs et parfois les petitesses de cet état de fait, je voudrais qu'on marque une pause et qu'on parle rapidement d'une autre passion que vous avez pour la guitare flamenco.
Oui, absolument.
Vous êtes un être multiple.
La guitare flamenco est une histoire familiale, puisque c'est mon père qui me l'a enseignée, lui-même formé par un guitariste et peintre qui était un grand ami de Garcia Lorca, de Buñuel, toute une génération d'Espagnols. Et je suis ensuite allé en Andalousie auprès des Gitans pour apprendre davantage cette musique qui m'intéresse beaucoup, puisqu'elle c'est une musique traditionnelle. Et l'enseignement de la guitare se passe évidemment entre générations. Et donc c'est toute la question de l'enracinement, du respect des anciens, l'idée n'est pas d'imiter, mais de s'inspirer du passé pour faire vivre cette musique orale qui n'a pas de partition. Et c'est évidemment tout l'inverse, on le verra, de l'autoconstruction individuelle. Ici, il s'agit d'être soi-même par l'apport de la communauté.
Quel est votre morceau préféré que nous l'écoutions ?
On pourrait par exemple écouter une soleá, qui est un style de flamenco, interprété par Paco del Gastor. Thank you.
Suite de ce numéro d'idées, après cette guitare flamenco, en compagnie de Julien Gobin, qui vient d'écrire l'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle chez Gallimard, dans la collection Le Débat. Nous poursuivons notre conversation après cette parenthèse de guitare. Julien, dans une autre partie, vous faites intervenir évidemment la technique et vous posez la question, la technique au secours de l'individu ? Et la technique, c'est l'intelligence artificielle.
Oui, c'est l'intelligence artificielle, mais pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut évidemment tout un réseau technologique qui n'est pas simplement informatique, c'est aussi pouvoir capter des données, avoir toute une mentalité d'optimisation du monde. Et donc l'intelligence artificielle est un peu le dernier langage, le dernier avatar du déploiement de la technologie.
Qui s'inscrit, selon vous, dans ce vaste mouvement du transhumanisme.
Oui, le transhumanisme qui est à double sens. Le premier sens qui est celui communément évoqué, qui est celui qui vient de la Silicon Valley, qui a une filiation très forte et très étroite avec la philosophie des Lumières. Et c'est en ce sens que c'est un mouvement intéressant, puisque l'idée dans la philosophie des Lumières était que l'humanité, au fil de l'histoire, va s'améliorer. C'est ce qu'on appelle la perfectibilité de l'homme. À partir du moment où on postule que l'homme peut s'améliorer, eh bien, plusieurs outils sont à sa disposition. À l'époque de la philosophie des Lumières, c'était l'éducation. Et à l'époque du transhumanisme, il y a un nouvel outil, il y a bien sûr l'éducation, mais il y a aussi la technologie pour conjurer les hasards de la nature, améliorer l'être humain, c'est-à-dire intervenir dans la lente histoire évolutive de l'homme. C'est le premier grand volet qui a évidemment beaucoup de promesses et qui peuvent paraître grandiloquentes. Alors même si c'est un mouvement qui a des prémices qui peuvent peut-être constituer une nouvelle civilisation, pour être plus réaliste, il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes sont contre ce mouvement. Il y a des, par exemple, le mouvement écologiste disent que tout ça c'est une aberration, on peut les comprendre. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'utiliser des téléphones portables, d'utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est là où on peut être plus réaliste et penser à un transhumanisme qui est donc l'augmentation de l'homme par la technologie, mais qui n'est pas associé à un projet collectif, un projet étatique, mais tout simplement son incursion dans les sociétés postmodernes et les sociétés libérales, dans le sens où chacun a le choix de cette technologie.
Ce qui donne ceci, je vous cite à nouveau Julien Gobin, qu'est-ce qui pourrait relier l'antispéciste non-binaire vegan, le décolonial déboulonneur de statues, le cadre sup burn-outé en stage de méditation vipassana, le néo-urbain à tendance à livraison de maquis californiens supplément gyoza en regardant Netflix, mais aussi le profil de Linda, liké aux toilettes par le pouce de Guillaume sur une application de rencontre, le conducteur d'une trottinette en libre-service ou encore les nuages de criquets pèlerins indignés s'agglutinant autour du hashtag balise. Un seul mot suffit à tous les rassembler, le transhumanisme.
Oui, absolument. Alors,
vous avez le sens de la formule. Hein si on a le temps, j'en donnerai une autre.
Le transhumanisme, puisque, alors là, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les détails, mais chacun de ces profils a soit comme fondement de son action la technologie, les algorithmes, ou alors une vision de la technique de la vie, qui est l'optimisation, ou, pour l'antispéciste, etc., l'abolition de la distinction entre l'homme et l'animal, et donc peut-être le fait que l'homme n'est pas doté d'une âme, d'un libre arbitre absolu, mais finalement est intégré au reste de la nature dans un grand tout, ce qui vient remettre en cause une certaine vision de l'humanisme. Mmh. Et tout ça, c'est dans le prolongement de la vision technique que porte en lui le transhumanisme.
Alors le transhumanisme qui, selon vous, est la dernière étape de la quête de l'individu.
Oui, absolument, puisque le problème de l'individu, c'est de pouvoir poursuivre sa trajectoire sans pour autant se renier. Donc pouvoir être soi-même sans subir les compromis de la vie en société, sans subir la souffrance qu'implique le fait d'être libre, mais aussi pouvoir s'émanciper toujours plus. Et donc on pourrait prendre les trois volets que je décris dans les paradoxes actuels. En quoi c'est une potentielle résolution ? Pour s'émanciper, nous avons bien sûr le changement de sexe qui est une donnée technologique, hein, c'est du transhumanisme déjà, mais aussi la congélation des ovocytes, qui est une technique qui permet de toujours plus repousser les déterminismes de la biologie. Et puis un dernier volet qui va, je pense, déferler dans la société, qui est l'eugénisme. L'eugénisme qui n'est pas le...
Ça, c'est une des parties les plus passionnantes de votre livre et passablement inquiétante.
Oui, oui, inquiétante, puisque alors, l'eugénisme, c'est un peu un tabou dans notre société, puisque c'est évidemment
la sélection de l'individu.
Hein. Sélection de l'individu à la naissance, dans l'embryon, etc., qui, sous le nazisme, a été l'horreur, et donc depuis, c'est devenu un tabou. Mais il faut savoir qu'avant le nazisme, en Occident, dès la fin du 19e, l'eugénisme était vraiment, dans les mouvements progressistes, quelque chose de particulièrement important et vu comme un moyen de perfectionner l'humanité dans le prolongement des Lumières, évidemment. Si on peut améliorer l'homme par l'éducation, on peut aussi l'améliorer par la naissance. Au même titre que si on a des chiens qui sont des animaux qui sont dociles, ça fera des individus dociles par la suite. La même chose pour les êtres humains, des intelligents entre eux, etc. Et puis, donc ça a été aux États-Unis, il y a eu énormément de génies dans des lois californiennes, mais ça s'est poursuivi en Suède jusqu'à la fin des années 90. Mais donc c'est un eugénisme qui, à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, n'est plus un eugénisme d'État, puisque nous sommes dans des sociétés libérales, et le libéralisme philosophique consiste à dire que ce n'est pas à l'État de donner une trajectoire, c'est aux individus de se déterminer en fonction de ce qu'ils pensent être le meilleur. Et donc, cet eugénisme, aujourd'hui, revient, puisque nous avons des moyens technologiques qui permettent de faire des sélections d'embryons, qui existent déjà, aujourd'hui. Tout ça fonctionne évidemment par la fécondation in vitro, donc c'est dans la procréation médicalement assistée. Quand plusieurs embryons sont fécondés, on peut déjà éliminer l'embryon qu'on estime être porteur d'une tare génétique importante. La trisomie aujourd'hui a quasiment disparu. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Il y a la couleur des yeux aux États-Unis, le sexe, mais il y a aussi, et c'est là le cœur qui va permettre à l'eugénisme de dépasser simplement cette singularité. Oui, la couleur des yeux, tout ça, c'est anecdotique. Non, il y a des traits beaucoup plus profonds. Certaines études ont permis de démontrer que la génétique avait un rôle très important dans notre personnalité. Il y a évidemment l'environnement, qui sont des milliards et des milliards de causes qui interagissent absolument impossible à identifier isolément, mais qui chacune représente une partie infinitésimale. Mais la génétique est un gros bloc qui varie selon des traits, mais ça peut déterminer jusqu'à 60% de notre personnalité. Est-ce que notre type d'intelligence, notre type de caractère, qui est une force gigantesque, et si on peut la déterminer en amont par un diagnostic, il n'y a pas un gène de l'intelligence, mais il y a des corrélations. C'est ce qu'on appelle les scores polygéniques. On ne sait pas pourquoi, mais on se rend compte que chez des personnes qui ont tel trait de caractère, ces variants génétiques sont présents. Et donc, si dans l'embryon d'un enfant, on peut les trouver, on aura une probabilité d'augmenter les chances de développer ce trait. Et à ce moment-là, est-ce que la vraie question, nos sociétés occidentales sont-elles armées pour interdire ça ou non ? Et si elles l'interdisent, au nom de quoi ? Puisque nous sommes dans des sociétés où la vie est encore sacré, mais au nom de reliquats un peu judéo-chrétiens qui persistent. Mais vont-ils persister là où la science infirme petit à petit ces interdits ?
Dans cette quête de l'individu sans cesse poussée jusqu'à ses limites, intervient donc l'intelligence artificielle, où là, il y aura, je reprends vos termes, une maximisation de l'utilité personnelle, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle va cultiver l'individu. Et peut-être un jour, là il s'agit peut-être d'un fantasme, d'une inquiétude malvenue, prendre notre place ou en tout cas prendre à notre place les décisions.
Oui, là c'est le cœur du rôle que peut jouer l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle pour beaucoup d'éléments plus ou moins inquiétants, le remplacement dans le monde du travail ou des choses comme ça. Mais le plus intéressant, c'est que l'intelligence artificielle peut, grâce aux données qu'elle capte de nous-mêmes, pouvoir faire des prédictions, des recommandations. Et là, il y a un vrai changement métaphysique de l'homme, puisque ces recommandations, ces prédictions sont assez efficaces. Et plus on donne de données, plus l'être humain peut être modélisé, formalisé logiquement, pour le prévoir. Et là, nous aurons à ce moment-là l'intelligence artificielle qui sera vue comme un outil personnel. Nous avons ChatGPT, par exemple, aujourd'hui, pour écrire des mails, etc. Bon, ça, c'est finalement assez anecdotique. Mais
c'est
un outil. Imaginez un ChatGPT qui est greffé à toutes les données que nous émettons, à la fois nos déplacements, nos appels téléphoniques, notre dossier médical. Et à ce moment-là, son rôle ne sera pas simplement de nous délester de certaines tâches cognitives, mais en retour, de nous conseiller, d'émettre des recommandations, par exemple, où aller ce soir, quel métier choisir, qui fréquenter. Ces recommandations existent déjà dans les réseaux sociaux. Il y a des lieux à fréquenter, des conseils pour des restaurants, des choses comme ça, en fonction des données que nous avons. Et toute la question qui se pose à ce moment-là, c'est si le fait que les intelligences artificielles fonctionnent nous révèle qu'une partie non négligeable de l'homme est bien plus importante que ce qu'on croyait et déterminée. Et connaître ces mécanismes permet à ce moment-là d'externaliser non plus simplement des tâches quotidiennes, mais également nos choix, et donc c'est là où c'est le vrai cœur du problème, notre libre arbitre. Ce libre arbitre qui n'est peut-être plus adapté au monde qui se dessine, un monde qui est beaucoup trop complexe, de saturation d'informations, et à ce moment-là, on aura tendance à l'externaliser auprès d'intelligences artificielles qui seront de meilleurs conseils.
Et vous nous dites, Julien Gobin, que le philosophe, vous êtes philosophe, nous parlons philosophie dans cette émission, qui est le plus à même de nous expliquer la période que nous vivons, c'est Spinoza, que vous rebaptisez Spinoza-IA.
Oui, Spinozia, pour le petit jeu de mots, c'est une nouvelle lecture de Spinoza, mais finalement, Spinoza est le penseur du déterminisme. Pour lui, l'être humain est un ensemble d'affects qui sont mécaniquement agencés. Et la méthode de Spinoza, c'est de dire, de mémoire, je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de plans et de surfaces, quelque chose de géométrique, tout est mathématique. Et l'intérêt pour lui, c'est de considérer les hommes, il le dit très bien, je considérerai les hommes, non pas selon les récits qu'ils se font d'eux-mêmes, nos narrations, ce qu'on pense être de nous, l'image qu'on voudra voir, mais tel qu'il est concrètement, tel que finalement les données qu'il émet, il exprime. Et il y a une grande différence entre les actions que nous pensons mener au nom de nos récits et les actions objectives que nous menons. Et Spinoza, à ce moment-là, pense que permettre à l'homme d'être plus heureux, c'est passe par la connaissance que l'être humain a de ses mécanismes. Ce n'est pas un libre arbitre qui est une émancipation, c'est une connaissance de ses déterminismes. Et dans la mesure où tout est déterminé, être en adéquation avec ces déterminismes, ça ne sert à rien de vouloir être, par exemple, de manger de la viande crue si notre système digestif ne le supporte pas. Donc il faut connaître toutes ces subtilités de notre corps, mais aussi de notre âme. Et cette subtilité étant le fruit d'une connaissance mathématique, le meilleur processeur pour calculer ces agencements, c'est bien évidemment l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit reliée à l'ensemble des élans de notre corps pour pouvoir travailler sur les bonnes données. Et c'est là où la connexion entre l'homme et la machine sera non pas un atout de communication, de télépathie, mais aussi un atout pour guider plus efficacement nos vies, selon d'ailleurs les principes que Spinoza émettait.
Et en creux, vous menez une réflexion sur les capacités de l'être humain sans la machine, sans la technologie.
Oui. Et c'est un effet de balancier. On dit évidemment, oui, regardez, aujourd'hui, l'homme est absolument merveilleux. On va sur la Lune, on construit des buildings qui font 300 mètres de haut. C'est formidable, l'humanité.
Mais en tant que tel.
Et en tant que tel, si on dit individuellement, que savez-vous faire individuellement sans la technologie, sans toute cette perfusion, que reste-t-il? Et finalement, on se rend compte que ce qui fait le succès de l'homme, c'est davantage désormais la coopération, la collectivité, l'externalisation, la mutualisation, mais individuellement, c'est une nécrose de nos facultés. Et pour l'intelligence artificielle, là, c'est un vrai problème. Externaliser nos compétences, que ce soit ChatGPT, mais aussi nos décisions plus tard guidées par l'intelligence artificielle, ça implique de saper le travail d'individuel, de maturation de nos idées, de prise de décision. Il y a un exemple qui est celui du GPS. Suivre le GPS pour conduit, et ça a été vu dans la zone de l'hippocampe, à une atrophie, jusqu'à une atrophie de la zone de l'orientation qui implique la mémorisation, la prise de décision. Et est-ce que être guidé dans nos vies par des intelligences artificielles ne va pas nécroser énormément de nos facultés?
Certains vont vous dire que l'intelligence artificielle créera d'autres facultés cognitives chez l'homme.
Alors, on peut l'espérer, sauf que cette fois-ci, alors la technique a toujours, c'est la destruction créatrice de Schumpeter, Est-ce que cette fois-ci, ça fonctionnera? Là, c'est, on peut, en procédant par induction, le changement majeur cette fois-ci, c'est qu'il y a une autonomie de l'objet technique par rapport à nous. Et là, c'est une vraie différence.
Mmh. suite de ce numéro d'idées consacré à Julien Gobin, en quelque sorte, et à son livre « L'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle ». Il faut poursuivre notre route et le chemin de nos inquiétudes, en quelque sorte, et parler par exemple de la démocratie à l'heure de l'intelligence artificielle. Vous envisagez, vous réfléchissez en tout cas, sur l'hypothèse de ce que vous appelez une démocratie déterministe. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de peut-être le modèle de démocratie qui pourrait résoudre ce paradoxe qui est que les intelligences artificielles ont tendance à prouver expérimentalement la nature profondément déterminée de l'être humain, qu'il n'y aurait pas cette âme, ce libre arbitre qui viendrait d'une cause métaphysique et nous ferait agir selon notre fort intérieur, qu'on pourrait dire le libre arbitre ou la conscience, etc. Tout ça est de plus en plus battu en brèche, d'autant plus que les intelligences artificielles ont un pouvoir de manipulation très fort, donc ce qui remet en cause en amont la décision individuelle, mais aussi en aval dans la liberté d'action, puisque la technocratie, la bureaucratisation du monde que permet la technique va rendre de plus en plus difficile la possibilité de choisir entre A ou B. Il va falloir suivre des guichets. Voilà. Mais à partir du moment où on se rend compte que l'être humain n'a pas ce libre arbitre ontologique, métaphysique, est-ce que la démocratie est encore possible ? Puisque le principe de la démocratie, c'est justement de postuler ce fort intérieur non déterminé. Et il y a une façon de le résoudre, et je poursuis avec Spinoza. Spinoza, qui était un grand défenseur de la démocratie, tout en reconnaissant que l'être humain n'avait pas ce libre arbitre dans le sens de force métaphysique, etc. Et donc peut-être que le modèle pour résoudre ça, c'est de réinventer la démocratie en postulant ce déterminisme, avec l'idée que le modèle serait de pouvoir capter à la source chaque volonté de chacun grâce aux intelligences artificielles, c'est-à-dire les revendications, les besoins, le fort intérieur de chacun, et de les agencer, et là c'est un peu une révolution politique évidemment, par une grande intelligence artificielle, un algorithme, une machine à gouverner, qui était d'ailleurs au principe des tout débuts de l'intelligence artificielle, de la cybernétique, dès les années 40. Il y a eu un premier grand article quand la cybernétique est arrivée, c'était « Va-t-on vers une machine à gouverner ?» Et l'intérêt de cette machine, c'est de pouvoir agencer l'ensemble des revendications de chacun. Mais l'intérêt, on peut se dire, mais c'est une dictature, c'est terrible, mais l'intérêt aussi, c'est que quand on regarde les partis politiques, à chaque fois, ils déforment la volonté individuelle. Ce n'est pas une démocratie directe. Et donc, si on pouvait avoir accès directement aux volontés de chacun, on pourrait ensuite chercher la meilleure formule, l'optimisation de la société. C'est quelque chose, évidemment, qui nous effraie, puisqu'on n'est pas du tout habitué à ça, puisqu'on a la liberté comme premier modèle. Mais si ce renoncement à la liberté conduisait au bien-être, si les personnes étaient heureuses dans cette société, pourquoi est-ce qu'ils la refuseraient ?
Ça, c'est la version optimiste.
C'est la version optimiste. Et l'autre version, évidemment, c'est un gigantesque léviathan politique qui est... évidemment, le grand danger, qui est d'ailleurs ce danger qui est évoqué dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mais qui est un danger ambigu, puisque si on regarde cette dystopie où les personnes sont conditionnées dès leur plus jeune âge, génétiquement, mais aussi par une propagande, etc., elles ne sont pas libres, mais elles ont leur place dans la société et elles ont le bien-être, elles sont bien, elles ne cherchent pas à sortir de cette condition. Et donc, toute la question qui va peut-être nous arriver, c'est sommes-nous prêts à... renoncer à l'instabilité, à l'inconfort, qu'à la liberté, la démocratie, c'est le combat, au nom du bien-être, qui est le confort, qui est l'optimisation de soi, mais peut-être au détriment de certaines de nos facultés et au prix peut-être d'un enfermement sur nous-mêmes.
Dans ce monde des algorithmes, tout est calculé. On finit par se poser des questions sur l'âme humaine, sur les sentiments humains, et vous revenez aussi sur cette notion qui est très à la mode de la part d'un philosophe qui ne l'est pas moins, Peter Singer, qui lui a créé cette idée d'altruisme efficace, qui peut nous paraître un petit peu étonnant comme formule. Pourquoi revenez-vous sur cet altruisme efficace dans cette perspective de l'intelligence artificielle et de l'individu soutenu, voire remplacé par cette intelligence artificielle ?
Parce que c'est un modèle de morale qui est emblématique du changement de paradigme qui est en train de s'effectuer. L'altruisme efficace, pour le définir, c'est le fait de considérer que si on souhaite être altruiste, aider les autres, il faut le faire efficacement. Et pour le faire efficacement, eh bien, imaginez que vous disposez de 4 euros dans votre poche, vous croisez un clochard, Est-ce que vous allez lui donner 4 euros pour qu'il s'achète un sandwich, ou est-ce que ces 4 euros, vous allez les transférer à une ONG qui, avec 4 euros, pourra mettre des filets pour protéger des piqûres de moustiques et donc du paludisme, ce qui sauverait à terme peut-être 200, 300 personnes. Et ça serait plus efficace de le faire. Mais vous ne verrez jamais ces personnes qui sont très éloignées géographiquement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain est pétri de biais. On appelle ça les biais cognitifs, qui sont nos passions, notre façon de voir le monde qui est façonnée par l'évolution. Et quand on voit quelqu'un en détresse face à nous, on est plus enclin à l'aider que quelqu'un qui est très loin. Or, mathématiquement, rationnellement, c'est une aberration. Si on veut aider quelqu'un, ce n'est pas se flatter ou assouvir un inconfort que générerait la tristesse de quelqu'un face à nous, mais c'est plutôt, va-t-on maximiser l'aide envers l'humanité en général ? Et Peter Singer nous dit, eh bien, il faut à ce moment-là consacrer tous nos efforts pour aider des personnes mais qui sont très éloignées, mais dont l'effet de l'aide sera bien supérieur. Et là, c'est toute une question qui se pose. C'est cette optimisation nous rend l'altruisme complètement désincarné. Quel sens est-ce que ça a d'aider quelqu'un qui est très éloigné pour notre connaissance de l'être humain, pour l'expérience humaine? Aider quelqu'un à tenir la main de quelqu'un de pauvre ou de quelqu'un de souffrant, ce n'est pas du tout la même chose que d'une ligne de compte, une ligne de débit sur notre compte en banque. Et en même temps, c'est plus efficace. Et là, c'est une vraie tension entre, d'un côté, une expérience humaine, des récits collectifs qu'on peut avoir et une connaissance d'autrui, et de l'autre côté, un façonnement du monde par une vision technique, mais qui nous dépossède d'un ensemble d'instincts, un ensemble d'émotions, un ensemble de ressentis qui sont le propre de l'humanité.
Et dans cette seconde vision, Julien Gobin, Kant triomphe, puisque c'est la victoire de la raison, en quelque sorte.
C'est absolument la victoire de la raison, et la raison, la connaissance, qui est quelque chose de très beau. Mais si on l'applique jusqu'au bout, si on développe le programme, on se rend compte que c'est un monde qui est profondément inhumain. Un monde dans lequel l'ensemble des récits que nous construisons aussi, l'ensemble de nos croyances sont brisés au nom d'un calcul et d'une optimisation qui, si on la poursuit jusqu'au bout, peut parfaitement être déléguée à des intelligences artificielles puisqu'elles sont plus efficaces pour calculer, plus efficaces pour répartir et optimiser une société rationnellement.
Alors, terminons avec ce que vous appelez le suicide. Vous reprenez d'ailleurs cette expression, suicide évolutif. C'est une des hypothèses, ce n'est pas l'hypothèse que vous retenez. Vous réfléchissez un peu contre vous également. Vous écrivez ceci: Homo sapiens peut-il survivre individuellement et collectivement dans un monde qui ne lui laisse plus la possibilité de donner du sens?
Oui, voilà. Parce que l'être humain a cette faculté qui a fait son succès évolutif de croire en des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas forcément rationnelles. Par exemple, si je parle de la vie, de la liberté, de Dieu, les sens sont différents selon les personnes, on n'en fait pas l'expérience. Et pourtant, ces grands récits qui sont des croyances ont comme effet, un double effet, de fédérer les êtres humains entre eux au nom de grandes valeurs auxquelles ils croient, qui déterminent des grands projets civilisationnels, mais aussi individuellement de donner du sens à sa vie et donc d'avoir une narration existentielle. Et le fait est que la connaissance, la technologie vient briser petit à petit ces grandes croyances. Je prends un exemple un peu anecdotique, mais qui est emblématique, un récit familial. Telle généalogie, les ancêtres nous racontent ça, et puis à un moment, il y a un test génétique, et on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on croyait, et c'est évidemment la science qui a raison à ce moment-là. Et petit à petit, les grandes croyances sur lesquelles on pouvait fonder des civilisations se retrouvent infirmées par l'exactitude. Et la science nous dit, non, ce n'est pas comme ça, ça c'est un mythe, c'est un récit. Et sur quoi, à ce moment-là, croire, sur quoi projeter son imaginaire pour trouver un élan civilisationnel?
Et si l'être humain ne change pas trop avec l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle ne prend pas le contrôle, on peut dire, on peut espérer que l'âme humaine continuera à vivre, non?
Alors, c'est toute la question. Cette âme humaine, elle avait eu, dans le passé, une place beaucoup plus importante dans la conception qu'on avait de l'homme. Et plus la technologie avance, plus la science avance, plus cette partie se réduit. Elle n'a pas été annulée. Mais donc toute la question, et c'est peut-être le combat qu'il faut mener, c'est à la fois d'être réaliste, de ne pas chercher à se battre sur l'âme humaine là où elle a été avalée par le matérialisme, parce que c'est un fait. Certes, de nombreuses parties du cerveau sont des parties mécaniques, mais cela ne veut pas dire qu'il y a des parties qui ne sont pas plus mystérieuses. Et ces zones de mystère, il faut les valoriser. C'est des zones de la morale, de la façon... Pourquoi fixe-t-on des buts ? Toute cette partie-là, il faut se concentrer dessus, ne pas penser que c'est tout l'être humain. Certaines parties ont été avalées par la science, mais d'autres parties persistent. Et c'est peut-être là que se trouve le combat pour préserver l'âme humaine, et quand bien même, et là on va penser contre nous-mêmes, quand bien même elle n'existerait pas, la vraie question c'est quel intérêt aurait-on à la postuler ? Parce que ceci crée un cadre de pensée qui permet d'élever l'humanité. Et donc peut-être qu'on a intérêt à croire en l'âme humaine, en croire en la liberté, puisque cela construit un environnement qui nous pousse à nous dépasser et à faire de belles choses.
Ah, pour résumer, vous employez une comparaison dès le début du livre. Nous sommes dans une chrysalide, c'est ça ?
Voilà, une chrysalide, puisque nous avons dans le règne des insectes, les holométaboles, qui sont des insectes qui passent par le stade de la mue, de la chrysalide, du cocon, la chenille, l'abeille. Donc nous avons la larve, puis le cocon, et dans le cocon, tout le corps se dissout. Et ce corps qui se dissout, c'est l'état actuel de notre civilisation, où nous avons à la fois des individus qui sont émancipés du cadre collectif, donc c'est une bouillie à l'intérieur de la chrysalide, mais tous ces nutriments vont alimenter des cellules qui donneront à terme une nouvelle civilisation. Et tout l'enjeu du livre, c'est de se demander quelles seront ces prémices qui permettront à l'individu de se réaliser dans un nouveau cadre collectif.
Merci Julien Gobin, merci d'avoir écrit « L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle », un livre publié dans la collection Le Débat qui donne vraiment à réfléchir, vous avez pu le constater en écoutant cette émission d'ailleurs. Merci.
Merci beaucoup.
Et j'espère que vous allez continuer sur cette lancée.
Je l'espère, merci beaucoup.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Orvensky, vous pouvez nous rejoindre sur l'appli RFI Pure Radio par exemple. Nous vous donnons rendez-vous demain pour de nouvelles idées, 17h10, temps universel, juste avant la soirée du premier tour des élections législatives. Notre invité sera la sociologue Dominique Schnapper. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.